Donc, je vais essayer de vous présenter un manifeste. Manifeste, en principe, c'est pour dire quand on n'est pas content. On manifeste. Ah, mais je comprends pas pourquoi. Ouais, je vais parler plus fort, voilà. Ça va mieux ? Les objectifs, d'abord, qu'il me semble qu'on doit partager tous ensemble, c'est bien d'avoir une population viable et autonome, avec une exploitation raisonnable et durable. Alors, peut-être sur le deuxième point, il y a du débat, on verra par la suite, mais normalement, on devrait être d'accord là-dessus tous ensemble, me semble-t-il. Pour atteindre ces objectifs-là, il va falloir définir une stratégie, puis mesurer son succès et son évolution. Ça, c'est le minimum de l'évaluation des politiques publiques, me semble-t-il. Alors, on a un projet de document. Je parle de projet parce que même si il y a un courrier, une lettre qui semble assez bien ficeler maintenant les choses, mais c'est encore en débat, me semble-t-il. Je crois que c'est encore voté le 25, puis ça sera au grand public. Alors, j'ai pas encore compris comment le grand public pourra être consulté par la suite et quel va être le poids réellement du grand public. Mais peut-être qu'on débattra tout à l'heure. Si les choses sont votées, je ne sais pas comment la procédure prévoit ces choses. Mais la question de fond, c'est est-ce que ce document, ce plan, il est suffisamment ambitieux ? Alors, pour parler de ça, vous avez tous dans vos mallettes, ce document. Alors, ce n'est pas un pion qu'on a envoyé, on a quand même travaillé là-dessus depuis le mois d'avril. Certains ont eu les premières versions, on doit être à la 16e version. Donc c'est quand même un document qui évolue. C'est un document qui certes a été rédigé par le conservatoire, mais qui a été rédigé en concertation. Donc ils ont aussi participé de très nombreux acteurs. Je regrette d'ailleurs que dans la lettre d'information, j'ai vu que le conservatoire n'était pas cité dans les participants, mais c'est pas grave, ça c'est des choses qui arrivent. Donc il y a de nombreux acteurs qui ont participé à la rédaction de ce document. Le principe et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une ambition d'abord qui soit partagée. Voilà. C'est aussi de contribuer à la prise de décision. C'est un document de travail. C'est pas ficelé, c'est pas bouclé, c'est un document de travail qui mérite d'être amendé, débattu. Je regrette simplement que ce colloque, on l'ait au mois d'octobre, 10 jours avant la date fatidique du 25. On l'aurait eu au mois de janvier. Le débat aurait été fabuleux. On aurait pu échanger, construire ensemble, de façon plus large, ce plan saumon. Et c'est, l'objectif, c'est bien d'essayer de permettre d'intégrer des propositions communes dans la version du plagiat commis du 25. Tout ça, c'est pour avoir normalement les meilleures chances de succès. Alors, le premier point, je ne vais pas m'étendre parce que le DREAL l'a abordé ce matin, c'était dans la lettre, je crois que c'est une chose acquise. Il faut une plus forte implication locale. Bon, il faut une gouvernance qui soit claire, qui soit adaptée et coordonnée. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faudrait qu'on ait une organisation à l'échelle locale qui rééquilibre un petit peu les forces. Le dossier Saumon, c'est un dossier politique en 1994. 100% politique. Il n'y a pas de technique, pas de science. Le conservatoire a initié un comité scientifique, et j'en suis ravi, qui a été repris par le ministère, qui est devenu le comité Saumon. Mais il n'y a pas de science. Maintenant, il y a peut-être un peu trop de technique et plus de politique. Donc, il faut un rééquilibre entre la politique, la technique, l'administration et puis les associations, qui redonne toute sa place à la concertation, aux acteurs qui sont sensibles à la conservation, mais pas qu'à la conservation, au développement et à la valorisation de la ressource. Et il est là l'enjeu. Alors, si on revient sur la situation actuelle, c'est quand même dommage, ça fait 2 jours, on n'a pas dit on en était où, c'était quoi, avec un graphe. Oui, ben oui, il y a une tendance. Il y a une tendance à l'augmentation, mais est-ce que c'est bien conforme aux objectifs de départ ? J'ai eu la chance de faire partie, alors j'étais pas il y a 20 ans, mais j'étais là il y a 19 ans, au démarrage de ce projet, 94. Alors le projet, il était simple. Je ne vais pas dire simpliste, mais simple. Il y avait peu de poissons, puis on dit on va faire une pisciculture, avec cette pisciculture, on va faire monter 500 poissons. Alors comme tout va bien, puisqu'il suffit de mettre une pisciculture, et quelques passes à poissons peut-être, ces 500 poissons, ça va donner la génération d'après 500 poissons, auxquels s'ajoutent les 500 poissons que la pisciculture fait venir, ça fait 1000. Ces 1000 vont pendre, puisque tout va bien, ça va donner 1000 poissons, auxquels s'ajoutent les 1500 de la pisciculture, ça fait 1500, et après 15 ans, M. Martin s'en va en retraite, on ferme la pisciculture et tout va bien. La problématique, c'est pas ça la situation actuelle. C'est que la pisciculture, elle peut faire venir 500 poissons, ça dépend des années, puisque 80% de 80%, bah, ça dépend des cas, ça dépend de l'utilisation, mais dans tous les cas, ça donne pas 500 poissons à la génération d'après. Et aujourd'hui, on n'a pas une population qui est stable. Alors on monte, progressivement, mais pas avec la même pente que ce qu'on avait prévu. Puis même, il semblerait, là, quand on a une politique enfin stable, et ça c'est grâce à la prise en main d'Adrien dans le pilotage en 2008, on a des choses qui deviennent stables. Ça c'est mieux pour comprendre les choses, pour avoir des données au bout de 2 ans, 3 ans, et pas changer de politique sans arrêt. Mais si on n'y est pas arrivé, c'est qu'il y a des limites à l'exercice. Et la première limite qu'on dit dans le manifeste, c'est l'habitat. C'est effectivement la reconquête de l'habitat. On est tous d'accord là-dessus. En quantité, en qualité, on n'a pas reconquéré suffisamment d'habitat et l'habitat n'est pas suffisamment de qualité. Et puis, vous avez vu, il y a deux petites barres là dans la courbe. Est-ce qu'on a vraiment optimisé ce qu'on devait faire dans le repeuplement ? Je ne parle pas d'augmentation, je parle d'optimisation. En qualité, en quantité et en localisation. Alors les habitats, je ne peux pas décrire tout ça, mais est-ce qu'on est suffisamment ambitieux dans les habitats ? La qualité de l'eau, c'est un des éléments d'habitat. Alors j'entends parler de bon état, très bon état. On essaie de parler d'excellence sur l'eau italienne. C'est un élément qu'on a introduit dans le SAGE, qu'on a réussi avec les élus, avec les acteurs du territoire à dire « Non, non, ça ne nous satisfait pas. Pourquoi ça ne nous satisfait pas ?» Alors certes, il y a le bon état et le très bon état. Alors j'ai pris un exemple du phosphore. Voilà, nous en France, on a décidé que c'est 0,05 la limite entre le bon et le très bon. Alors on n'a pas de chance. Mon avenir est incertain. On n'a pas de chance parce qu'il y a des scientifiques qui ont étudié 250 rivières, qui ont étudié, comparé, ce qu'on appelle l'eutrophisation, quand la rivière devient verte, en résumé. Et ils ont montré quoi ? Ils ont montré qu'à un moment donné, il y a un décrochement d'une rivière qui va bien, une rivière qui va mal, et que ce décrochement, il est à 0,03. Alors vous pouvez aller voir la publication scientifique, hein, c'est pas moi qui ai rédigé ça. Mais nous, on est où dans l'Allier ? On est juste au milieu. Pas de chance. On est entre le très bon et le bon. Et tout l'enjeu et l'objectif, c'est normalement d'être dans le meilleur possible. Alors, il y a ceux qui ont des rivières à saumon, il y a ceux qui ont encore des saumons. On n'avait pas d'interlocuteur irlandais, mais il y a des saumons en Irlande. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, nous, nos normes. Il faut quand même attention, nous, nos normes, parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'examen à tous les coups, c'est 0,025. Voilà. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire passer l'Allier de là à là. Parce que j'ai entendu ce matin, effectivement, que la Loire, fleuve sauvage, c'était peut-être cautionner une situation qui n'était pas réelle. Mais est-ce qu'on n'est pas, on ne devrait pas se poser aussi la question de est-ce que le bon état ou le très bon état, c'est pas cautionner une situation qui ne correspond pas non plus alors à une attente des exigences biologiques d'une espèce. On peut être satisfait d'une bonne note. On peut donner un diplôme, un examen. Je suis assez surpris aujourd'hui, un baccalauréat à 98% de réussite. Ils ont eu le baccalauréat, c'est bon, très bon. Même avec la mention des fois. Le résultat final, c'est que les étudiants puissent après créer de la valeur derrière dans leur travail. C'est ça la réalité, c'est pas d'avoir le diplôme ou pas. L'excellence, c'est ça l'objectif. Mais l'excellence, elle est bien conforme aux exigences d'une espèce. Alors justement, tout le monde dit, ah c'est quoi la norme ? Alors, il y a pas qui dit, est-ce qu'il faut 3 mg, 10 mg ? Bon. Je prends l'exemple d'une moule perlière. Je vais prendre l'exemple de la moule perlière. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que le massif central, c'est le gros spot des moules perlières. 55 populations recensées sur différents cours d'eau. Pas mal sur le Haut-Allier. Par contre, vous voyez les points rouges. On a perdu 90% de nos populations dans les 10 dernières années. 90% des populations dans les 10 dernières années. Alors qu'elles sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Alors, je fais une petite analogie entre le bon, le très bon, l'excellence. La Volvic, c'est notre local. J'ai regardé l'analyse chimique de la Volvic. La Volvic, elle a 6,3 mg de nitrate par litre. Elle est dans le très bon. Elle est même dans l'excellent. Pas de chance. La moule perlière, il lui faut moins de 2 mg par litre pour survivre. Et on a réussi à la faire vivre pendant 10e de milliers d'années. Et les 10 dernières années, on a chuté. Mais on est encore en dessous des 50. On est encore dans le très bon. Je ne parle même pas du bon état, mais on est encore dans le très bon. Donc oui, il faut une qualité, mais qui soit conforme aux exigences de l'espèce. Continuons sur l'ambition. Je ne peux pas détailler tout forcément en termes d'habitat. La continuité écologique, est-ce qu'on est suffisamment ambitieux ? Il y a eu des vrais débats ce matin. Entre effacer un ouvrage, l'aménager ou bricoler. tout cas, moi, ce que je constate, ce que les pêcheurs constatent, c'est ça. Pourquoi on n'y est pas arrivé? En 2005, j'ai organisé le NASCO à Vichy. En 2005, il y a eu un dossier déposé, c'est-à-dire il y a 9 ans, avec près de 400 photos de blessures de saumon. Alors on a pris le parapluie, c'est peut-être une bactérie qui attaque le saumon, qui lui rend des blessures, alors que tous les observateurs de terrain voyaient bien que quand une passe à poisson, elle est bouchée, qui saute et qui s'abîme, c'est pas bon. On est 10 ans plus tard. Cette année, il y a une recrudescence des blessures. Ça, c'est une observation quantifiée à Vichy dans les captures. La prédation, on n'a pas beaucoup parlé, et pourtant, est-ce qu'on est aussi suffisamment ambitieux? Ça fait des années qu'on dit, attention, le silure, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on lit dans le projet du plagiat commis? Il faut renforcer notre vigilance. Renforcer notre vigilance. Avec ça, on va bien avancer. Alors là, vous avez un exemple. C'est sur la Loire, c'est Philippe Boineau qui a fourni cette photo. C'est un saumon, oui. C'est un saumon adulte de plusieurs étés de mer qui est sorti d'un silure. Et c'est pas un cas isolé. Bon, je vous parle pas des comment, ça c'est des débats connus. Alors maintenant, je vais aller sur le repeuplement. Est-ce qu'aussi on a été suffisamment ambitieux dans le repeuplement? Parce que repeupler, et qu'on soit clair, c'est une action temporaire. Et plus court c'est, et mieux ça vaut. Ça veut dire que le job à côté, il a été fait. Parce qu'on a deux possibilités. On met le saumon dans l'azote liquide, on ne peut pas le mettre dans un zoo, bon, dans une pisciculture à la limite, on fait de la conservation ex situ. Et puis à côté, il faut régler les problèmes, il faut retrouver une population stable, autosuffisante, mais il faut corriger les problèmes. Et plus vite on les corrige, et mieux c'est. Alors on dit que le repeuplement, ça coûte cher. Mais tout à l'heure, j'entendais parler des chiffres de coûts, de passe à poisson, etc. Ça coûte beaucoup plus cher d'aménager le milieu que de faire du repeuplement. Pourquoi le repeuplement, il a traîné partout dans plein de pays? C'est parce qu'on n'a jamais mis assez, financièrement, en termes d'ambition, sur la reconquête de l'habitat. Et qu'on s'est couvert avec du repeuplement. C'est simplement pour passer le temps et éviter la disparition. Mais en termes d'ambition de la disparition, sincèrement, vu les courbes du chercheur, il n'y a rien à faire. Dans 10 ans, on va se réunir, on aura 200 saumons, mais il n'aura pas disparu. Ça, c'est pas compliqué à obtenir. Optimiser le repeuplement, c'est quoi? Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez là les chiffres, des retours de saumon à Vichy, et puis les changements de stratégie. Voilà. Vous avez en bleu la zone aval, et vous voyez que c'est devenu stable les dernières années, 2008, 2009, 2010. Ça conduit au retour, 2011, 2012, 2013. Par contre, alors il y a des années où on en a mis 1 million. Mais on a été les mettre dans des endroits où on pensait, dite zone refuge, ou la zone extrême. Alors c'est la zone fabuleuse, c'est l'amont du barrage de Coutès. Il a fallu quand même attendre 10 ans pour dire, ah ben peut-être qu'un smolt qui part, il va perdre trop de temps et ça n'a aucune chance. Et en termes de repeuplement, c'était des zones fabuleuses. On mettait des alevins, on fait une pêche électrique 3 mois plus tard, on en trouve plein. C'est un bon milieu. Mais sincèrement, mettez des alevins dans la fontaine de Brioude, je refais une pêche électrique en septembre, j'en trouve plein, c'est un excellent milieu pour le saumon. On a juste oublié que le saumon immigrait. Et il devait franchir les obstacles dans un sens et dans l'autre. Et quand on regarde ces chiffres, bah, il y a une année exceptionnelle, 2003. Ah oui, bah, c'était pas de chance. Ça correspond, mais c'est la seule année. Malheureusement, on n'a pas fait d'expérimentation. C'est la seule année où on a dit, oh, on veut rien mettre en amont du barrage de Poutès, on a tout mis à l'aval. Par contre, il y a un autre chiffre qui est intéressant. C'est 2007. Alors 2007, vous faites contractuellement le marché, la commande. Ce matin, j'ai entendu parler de commande, on y reviendra. On met juste ce qu'il faut. On a mis juste 250 000 alevins. Puis en plus, on a été à mettre plus de la moitié en amont du barrage de Poutès. Manque de chance, ça donne un résultat avec 220 poissons à Vichy. Alors, on peut peut-être commencer à se poser des questions. Ah, il y a des concours de circonstances, mais malheureusement, à nouveau, quand on n'a pas 3 années d'affilée, on ne peut pas en tirer des conclusions. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne peut pas prouver ce que je dis, et on ne peut pas prouver l'inverse. Sauf qu'il y a aujourd'hui, il y a un modèle qui effectivement dit 80% des poissons peuvent revenir de la pisciculture. Et puis si on arrête tout, bon, alors moi on parle de tendance, stabilité, conforté. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques dans ma phase d'étudiant, enfin un petit peu quand même. La tendance, elle n'est quand même pas la stabilité, hein. Et puis, quand on est sur une rivière aussi longue, on a eu un comité avec 12 chercheurs généticiens qui disent une rivière aussi longue que l'Allier, 200 individus, c'est pas viable. Parce qu'il y a des probabilités de se croiser entre mâles et femelles. Donc, si on répartit tout le monde sur le secteur, c'est pas viable. Alors, quelle ambition pour le repeuplement? J'ai fait trois. Alors, ça, c'est un modèle. C'est pas le modèle de l'INRA. C'est pour ça que j'espère que l'INRA pourra traiter ça. Enfin, c'est notre modèle. Il y a trois possibilités. D'abord, le premier point, c'est de se dire, voilà, le plan 2014-2019, c'est la zone verte. Rien ne va changer, on ne fera rien changer d'ici 2007. Les poissons sont déjà dans la rivière, 2017. Ils sont dans la rivière, ils sont dans l'océan. Donc, la décision qu'on prend maintenant ne pourra impacter qu'après 2017. Ça, c'est le premier point. Ce qui veut dire qu'on va juger la politique de notre plan toujours quand le plan est déjà fini, quasiment. Ce qui veut dire que à partir de 2018, première simulation, ce que j'appelle le soutien contractuel, la commande des 800 000 alevins actuels qui sont demandés, dont 250 000 sur la ligne, on y reviendra plus tard, c'est une baisse globale de 32% par rapport à la réalité, par rapport à ce qui a été réellement mis. Et là, je pense qu'il faut être clair sur l'information. La stabilité de la commande ne veut pas dire la stabilité de ce qui a été fait. C'est un message des fois un peu politique, mais c'est la réduction dans l'accélération, c'est... En tout cas, c'est pas ça la stabilité. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à la courbe violette. Ça, c'est si on n'améliore pas l'habitat. Il n'y a pas de raison que si on n'améliore pas l'habitat, on améliore globalement les autres survivants. Il y a des aléas, il y a des écarts-types, ils ne sont pas là. C'est le modèle de données. Deuxième possibilité, c'est on reste sur le soutien actuel, réel. On a déversé en réalité 1 100 000 alevins par an en moyenne. C'est ça qui a conduit au retour. Et on réduit les smolts. J'ai dit ce matin, je ne reviens pas là-dessus. On est stable avec une légère baisse. Puis troisième possibilité, on fait juste 5% de plus, pardon, 5%. Alors, on demande l'augmentation des repeuplements. Tout ça pour faire monter le nombre de saumons. Tout ça pour pêcher un jour et justifier. Non, c'est garder une tendance. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le plus intéressant, c'est ce deuxième graphique. Parce que si on se met à bosser correctement, et que le milieu, à partir de 2017, on améliore le taux de survie de 50%. Voilà l'effet démultiplicateur qui est intéressant. Entre les deux choix de scénario. Le scénario contractuel, en 2027, allez, dans 10 ans, 12 ans, bon, on est à peu près au même chiffre. Scénario moyen, on est à 1000, et puis l'autre scénario, on dépasse de temps en temps pour dépasser les 1500 ou les 1600 sous. Il est là l'enjeu, c'est de reconquérir cet habitat. Mais reconquérir l'habitat, et ce qui est mis dans ce document-là, c'est pas une décision technique comme ça. Alors, je vais saluer le travail des ONG, parce que les grands barrages, les grands obstacles, les ONG les ont fait sauter. C'est pas le grand public qui les a fait sauter. C'était cette pression. Par contre, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est pas les gros ouvrages, c'est la petite station d'épuration, parce qu'il en existe encore en Haute-Loire, aujourd'hui, en 2013, de villages qui sont en plein cœur des zones de frayère et qui n'ont pas de station d'épuration. Là, c'est bien les collectivités qui vont décider. Et là, l'idée, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas utiliser cette tendance à l'augmentation pour valoriser le travail qui a été fait et impliquer plus? Alors concrètement, ça veut dire quoi, optimiser le repeuplement ou augmenter? Mais là, bien sûr, il faut discuter. C'est de dire, il faudrait peut-être compenser, parce que les smolts, ça ne fait pas venir beaucoup d'individus, mais ça en faisait venir un petit peu. Donc si on ne les met pas, il ne devrait rien avoir moins, sauf si les choses sont chamboulées. Alors si vous me dites que l'habitat va augmenter dans les deux prochaines années, je signe tout de suite. Sincèrement, je n'y crois pas. Et on n'est pas le seul à ne pas y croire. Compenser en partie la réduction des smolts, optimiser les déversements sur les zones productives. Aujourd'hui, on prend des principes de précaution colossaux. On évite de peut-être mettre en concurrence. Aujourd'hui, on va déverser des poissons proches de Clermont-Ferrand parce qu'on a peur que peut-être un alevin de la pisciculture puisse rentrer en compétition avec un alevin sauvage sur une zone en prenant des principes de précaution qui sont colossaux. Mais ça a été pourtant prouvé pour d'autres choses. Le taux de survie à l'aval, il est catastrophiquement plus bas que le taux de survie à l'amont. Or, ce qu'on dit et ce qu'on propose en termes d'optimisation du repeuplement, c'est 100% de poissons sauvages de première génération. Alors, il a été élevé 2 mois. Mais posons la question aux généticiens. C'est pas notre métier. Entre un poisson de deuxième génération et un poisson de première génération, il y a une grosse différence. Mais aujourd'hui, est-ce que le principe de précaution qu'on prend va à l'encontre des ambitions qu'on doit se donner? valoriser au mieux l'allier, la lagnon et la sioule. C'est là où on a les résultats, c'est là où on attend les choses. Moi, je veux bien me battre sur la Gartempe. J'y suis allé des dizaines de fois faire des déversements. Il y a 120 seuils. Vous cherchez le sens de déversement de la rivière. Et tous les seuils s'appellent moulin. Je vais déverser des alvins, chaque fois ça s'appelle moulin, moulin, moulin. Donc on est au pied du barrage. Et vous le mettez au pied de barrages qui ne sont pas aménagés. Donc oui, à long terme, c'est super d'aller sur la Gartempe. C'est bien d'aller partout. Mais dans les périodes de restriction, il faut peut-être se focaliser sur l'essentiel. Et ce qu'on propose, c'est de dire optimisons sur l'Allier, et puis réduisons un peu là où c'est peut-être moins nécessaire. Alors j'aime dire, ça y est, je l'entends dire, ce Martin, il veut de l'argent. Il veut plus d'argent parce qu'il veut plus de poissons, donc il veut plus d'argent. Non, non. L'écart entre les deux, ça a été gratuit pendant des années. J'ai fait une minute, ça a été gratuit. Ça, c'est parce que l'établissement est performant, j'ai salué l'ensemble de l'équipe, voilà, on a eu ces résultats. Mais imaginez ce que j'ai entendu. Cet excédent, il fallait le mettre à l'écarissage à un moment donné. Heureusement, des gens sensés ont dit non quand même. Mais on a débattu de ça en groupe. Même pire. Il y a encore 15 jours, dans le cadre de l'appel d'offres et du projet, on nous dit si jamais vous en faites plus que prévu, vous allez être pénalisé de 3 euros par alvin de trop. 300 000 alvins, c'est 1 million d'euros de pénalité que le conservatoire devait payer. Bon, on a dit quand même, on va aller voir un avocat, parce que ça quand même paraît pas normal. C'est supprimé. Et tant mieux, il y a des gens raisonnables qui sont intervenus. Mais c'est l'état d'esprit qui est derrière, qui ne va pas. Alors que des gens rêvent d'en avoir, que les Allemands nous ont dit, nous on essaye d'augmenter temporairement, on nous dit, si vous en mettez trop, on va vous pénaliser. Une minute. Donc un rapport de qualité optimisé pour un retour croissant en réduisant les budgets. Oui, ça fait déjà 4 ans qu'on est au même prix. L'inflation, on n'en compte pas. Il y a des budgets qui augmentent à côté. Nous, ça reste stable. C'est tout ce qu'on demande. Mais la stabilité, c'est quand même compenser aussi l'inflation. Donc quand on fait le bilan sur 7 ans, ben, on est dans les 20% d'écart. Puis dernier point. Le soutien ambitieux et optimisé, c'est pourquoi ? C'est pas pour faire... Alors, j'entends dire aussi. Et je veux désamorcer ça tout de suite. Il veut rouvrir la pêche, et il sait très bien que pour rouvrir la pêche, il faudra beaucoup de poissons, et il sait très bien que pour avoir beaucoup de poissons, il faut en mettre beaucoup. Alors ça, c'est l'argument des opposants. Non. Ce qu'on dit, c'est de garder cette tendance, pour ne pas démobiliser l'ensemble des acteurs, pour que les stations d'épuration locales, elles, se fassent. L'ouverture de la pêche, on la fera peut-être un jour. Mais c'est eux qui vont décider. Je siège dans une clé. On voit l'augmentation, on dit, voilà, tous les efforts qu'on a faits, c'est bon. 11 millions d'euros investis par Poutès, tant mieux. Mais imaginez, dans 3 ans ou dans 4 ans, si on a une baisse, quelle est la conséquence de cette baisse sur la décision politique locale qui va se passer? Est-ce qu'on va être capable de mobiliser les gens pour aménager la station d'épuration? Parce que si on fait un colloque que tous les 20 ans, on n'aura pas réglé le problème. Par rapport à ça, pour mobiliser les acteurs, il faudrait vérifier la viabilité du modèle. Parce que oui, on atteint cette tendance, c'est le dernier transport. Est-ce qu'on aura atteint cette tendance? Et le modèle doit le vérifier. Quel risque on prend? Et là, c'est un avis du comité scientifique. Et puis, il faut donner des indicateurs. Parce que j'entends dire, ah non, on ne donne plus d'objectifs chiffrés. Ah non, non, non. Parce que, comme on ne les atteint pas, ça déçoit. Mais même le président de la République, si j'écoute bien l'actualité, se donne des objectifs pour 2050. Il en a donné. Et nous, on n'est pas capable de donner des objectifs chiffrés. Le Québec monte tout à l'heure, 118 rivières, des seuils de conservation de toutes nos rivières. Mais nous, l'Allier, c'est atypique. On n'est pas capable de donner ces chiffres. Alors je suis ravi de voir que dans le plan, oui, on va travailler, étudier là-dessus. Donc dans ce document et dans ce manifeste, vous savez, c'est des pions qui ont été mis en place depuis le mois de mars, avril, et puis progressivement, ça a évolué. Je suis ravi de voir que dans la lettre, vous prenez le document et le manifeste, il y a les 4 titres et les 4 mêmes. Donc je demanderai peut-être un jour à André de m'aider dans la rédaction d'un manifeste. C'est assez proche, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a des synergies. La baisse du soutien, elle interviendra quand, à notre sens, on a un signal fort qui est l'augmentation des populations sauvages. Et plus vite ça sera fait, et mieux ce sera. Enfin, pêcher le saumon, ben oui, l'objectif c'est d'une pêche durable et respectueuse du saumon sans porter atteinte à la population. Il y en a eu suffisamment dit là-dessus, et ça sera l'objet du débat tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. Je vous remercie.